Briançon, Gap, Castellane, Sisteron, Digne, Manosque, Marseille, Fréquence Mistral.
Fréquence Mistral, nous retrouvons notre chronique mensuelle avec Nayri Boudet, sexothérapeute, avec un sujet que vous avez anticipé et dont nous allons parler. Bonjour Nayri.
Bonjour. Pour ces chroniques, j'aime bien m'inspirer de la clinique, c'est-à-dire de ce que je vois au cabinet, donc des problématiques qui sont récurrentes et qui permettraient, je pense, aux auditeurs peut-être soit de se retrouver dans les récits, dans les vécus, et peut-être d'imaginer aussi des portes de sortie à des problématiques rencontrées peut-être depuis un certain temps et d'envisager une vie plus sereine.
Comment définir ce trouble dont vous allez nous parler? Est-ce que vous avez un terme spécifique, quelque chose qui puisse imager?
On peut parler de trouble de l'attachement ou de dynamique quelque part d'attachement. C'est la manière dont on va s'attacher aux autres, créer des liens. Et puis on peut créer des liens de manière plus ou moins anxieuse, c'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins flexible dans notre manière de nous lier aux autres. Et ce dont je m'aperçois avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est que se lier aux autres n'a rien d'une évidence. Souvent, ça demande une remise en question pour éviter soit de trop s'attacher ou de s'interroger lorsqu'on a du mal à s'attacher. Puisque créer un lien serein et authentique, c'est du coup trouver un équilibre justement entre le trop et le pas assez.
La possessivité, la façon de vouloir non seulement aimer quelqu'un, mais faire tellement partie de lui qu'il vous appartient. De quoi s'agit-il? C'est un trouble, c'est une pathologie?
Alors je n'emploierai pas le mot pathologie. En fait, je parlerai plutôt d'insécurité majeure, de conséquences, en fait la possessivité ou la jalousie comme conséquence d'une insécurité majeure ressentie par la personne qui du coup va adopter ce comportement-là, dit de possessivité ou de jalousie. En fait, ce sont plutôt des personnes qui ont besoin de se rassurer à travers des comportements qui sont discutables. On va dire. Beaucoup de personnes au cabinet, des conjointes ou des conjoints vont dire « mon partenaire est trop possessif ou trop jaloux et cela nuit à la communication ». Et franchement, c'est tout à fait entendable parce que parfois les conséquences de ce besoin de réassurance sont impactantes. Dans le quotidien, ça peut aller, on en a déjà parlé, la fouille dans le téléphone, un besoin d'être régulièrement tenu au courant de ce que fait la personne, parfois à plusieurs moments bien précis de la journée. Et en même temps, comme il s'agit d'une insécurité ressentie par la personne qui a ce comportement-là, on ne peut pas juste lui dire « oh ben c'est bon, tu es agaçant, arrête
!» Est-ce que c'est également une peur donc de l'abandon, quelque part, qu'on va retrouver? Cette peur de cette solitude aussi?
Et oui, bien souvent, il y a ça derrière. C'est-à-dire que ce qui relève de ce qu'on va appeler dans le langage courant la possessivité ou la jalousie, c'est un besoin de contrer, en fait, cette peur de l'abandon ou du rejet. Ce sont des personnes qui en ont souvent fait les frais, en fait, de l'abandon, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence, dans des histoires précédentes qui les ont marquées. Je vois bien au cabinet les personnes qui me disent, en fait, j'ai déjà été trompée une fois ou plusieurs fois dans mes histoires précédentes et aujourd'hui, le fait que cela se produise à nouveau aujourd'hui me rend totalement anxieux. Donc les personnes ne se sont pas réveillées un matin en se disant « tiens, si je devenais possessif et ou agaçante ». Mais les personnes tentent par des manières maladroites de se rassurer. Or le problème, c'est que ce faisant, elles vont quelque part conditionner l'autre à être le réassureur, quelque part, celui d'où vient la réassurance, alors qu'en même temps, ce sont les personnes qui vont générer de l'inquiétude de par leur comportement. Et je ne dis pas que les personnes sont inquiétantes, mais en fait, le partenaire dont on a peur qu'il nous quitte, on va finalement lui donner un certain pouvoir qu'il ne devrait peut-être pas avoir non plus. C'est-à-dire, c'est une sacrée responsabilité, finalement, de rassurer l'autre sur la peur de la perte du lien en permanence. C'est surtout, la question, c'est surtout en permanence.
Parmi les risques, les impacts de la possessivité sur l'être, sur la personne, est-ce qu'il y a des troubles également sexuels que l'on peut remarquer? Est-ce que ça peut avoir un impact également, être possessif?
Oui, mais pas dans le sens de être possessif, c'est plutôt être insécure. C'est-à-dire le fait de ne pas être en sécurité émotionnelle dans une relation va forcément avoir des impacts sur le corps, puisque tout est lié, c'est-à-dire que nos émotions, les thérapies cognitivo-comportementales ont bien mis en évidence le fait que cognition, c'est-à-dire pensée, émotion et comportement marchent ensemble. Donc si j'ai des émotions et des pensées anxiogènes, forcément ça va avoir une incidence sur mon comportement. Et donc, ça peut avoir, souvent c'est le cas, mais c'est peut-être un biais aussi dans ma profession puisque je suis sexothérapeute, souvent ça va avoir des répercussions sur la vie sexuelle. Et donc je travaille souvent avec des messieurs qui vont me dire « je viens pour un trouble de l'érection ». Ou un trouble de l'éjaculation, mais lorsqu'on parle d'insécurité, c'est souvent d'insécurité émotionnelle dans la relation, c'est souvent des troubles de l'érection. Les personnes donc commencent par me dire qu'elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, qu'elles n'ont pas confiance dans leurs compétences en matière de sexualité. Et puis en creusant un petit peu le contexte relationnel, on s'aperçoit qu'en vérité, le partenaire, bon, souvent c'est une partenaire, n'est pas très sécurisante. C'est-à-dire que l'attachement entre les deux partenaires n'est pas sécurisant, voire plutôt inquiétant. Un partenaire qui va parfois, lors de disputes, menacer de mettre un terme à la relation, un partenaire qui a déjà trompé par le passé, donc fait une entorse, pas au règlement, mais au contrat qui avait été établi, on va dire, en début de relation. C'est pas que je sois pro-couple exclusif, mais je suis pro-engagement, c'est-à-dire pro-engagement clair, c'est-à-dire que les personnes essaient de réfléchir à quel type de relation elles ont envie d'initier lorsqu'elles se lient. Et après, ben, si on veut être sécurisé et pouvoir être soi dans le lâcher-prise, à ce moment-là, ben, c'est bien de pouvoir coller à ce contrat, on va dire.
Donc ça dénote effectivement une peur de s'engager. C'est une fuite aussi.
Ça peut l'être aussi, effectivement. Des messieurs qui ont des troubles de l'érection, on peut l'interpréter en ce sens et ça m'est déjà arrivé d'en arriver à cette hypothèse-là avec les personnes, c'est-à-dire que c'est le corps en fait qui vient manifester cette recherche d'évitement, là où la personne, elle, dans son discours, va se dire soit pleinement amoureuse, soit pleinement attachée, soit dans la capacité en fait tout simplement d'exister sans la personne. Mais dire à quelqu'un « je ne peux pas vivre sans toi » et là je reviens à quelque chose de plus généralisant et je sors des exemples de messieurs que je prenais, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est une sacrée responsabilité. Et c'est même, on en avait parlé des relations d'emprise, c'est quand même aussi donner le pouvoir à un autre qui reste un être humain et donc qui est faillible. Et c'est quand même, je crois que je peux me permettre peut-être ce petit parallèle, on le voit avec le monde de la politique, c'est-à-dire que lorsqu'on détient le pouvoir, qu'on a les rênes, vraiment se défendre de cette tentation de l'exercer avec sa toute puissance, ben, ça demande vraiment une réflexivité importante. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer sur l'autre, au contraire, c'est ce qui fait la base d'une relation sécurisante, mais de toujours interroger le pouvoir que l'on va donner à l'autre.
Est-ce que la possessivité, c'est un mécanisme qui peut amener à la jalousie, qui peut empirer en fait ?
Oui, bien sûr, puisque du coup, ça va conduire le partenaire à s'inhiber en fait au niveau de ses désirs et au niveau de ce qu'il a envie de faire. Pour le coup, je pense à plusieurs femmes avec lesquelles je travaille qui vont éviter les sorties avec les amis, les sorties avec des copains garçons, par exemple, pour éviter d'inquiéter le compagnon. Mais Mais là encore, rien ne remplace une bonne communication, c'est-à-dire que la personne, ces femmes-là en l'occurrence, puissent exprimer à leur compagnon pourquoi est-ce que, en quoi la compagnie de ces copains masculins peut leur apporter quelque chose d'enrichissant, en quoi le fait de pouvoir sortir et donc de goûter à cette liberté dont elles se sentent parfois privées avec la maternité, par exemple, en quoi est-ce que ça peut les ramener à une impression de liberté plus grande.
Nahiri, dans ce cas de figure, quel va être votre rôle? De quelle façon est-ce que vous intervenez?
Eh bien déjà, comme je le disais tout à l'heure, je travaille en tant que sexothérapeute. Donc les personnes viennent souvent en me parlant d'abord de ce qu'elles observent sur le plan des symptômes, c'est-à-dire des difficultés sexuelles, des difficultés à lâcher prise. Et donc les difficultés à lâcher prise se retrouvent en fait, enfin ce sont aussi des difficultés sexuelles, donc vaginisme, troubles du désir, troubles aussi érectiles, de l'éjaculation chez les hommes, voilà, comme on disait, difficultés à être pénétrée pour une femme, etc., etc. Ou même, tout simplement, je dirais, difficultés à être touchée. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au cabinet et qui me parlent de la difficulté qu'elles ont à être touchées, à être caressées, voire même à être regardées. Donc à être désiré aussi, ou à risquer d'être désiré. Mais pour revenir à ce que vous disiez, donc qu'est-ce que moi je peux proposer? Mais déjà de commencer à prendre un peu de recul par rapport aux symptômes. C'est-à-dire ce symptôme-là, dans quel type de contexte relationnel s'inscrit-il? Je suis rarement seule. Et même si je suis seule, c'est-à-dire je reçois par exemple des messieurs qui vont avoir des troubles de l'érection lors de la masturbation, à ce moment-là, on va venir interroger la manière dont la personne s'imagine, comment elle aimerait être, l'image qu'elle a d'elle-même, d'un homme fort, compétent, qui a une bonne érection, viril, masculin, etc. Mais ça, on va laisser de côté, parce qu'il s'agit d'autre chose, il s'agit plutôt d'une question d'image de soi. Là, on va plutôt venir... Enfin, il s'agit toujours d'image de soi, mais là, on va vraiment... Pour répondre à votre question, je vous parlerai davantage de lien, c'est-à-dire comment est-ce que je me situe dans le lien. Et à ce moment-là, on va pouvoir se demander, mais finalement... Comment est-ce que moi je suis dans la relation et comment est-ce qu'est l'autre dans la relation? Et puis souvent, je ne les vois pas toujours les partenaires, mais de ce que me disent les personnes avec lesquelles j'ai des entretiens, et le partenaire ou la partenaire a l'air lui aussi pas très en sécurité émotionnellement. Et donc du coup, c'est là où on assiste à un effet rebond, c'est-à-dire que les insécurités de l'autre, de l'un, rebondissent sur les insécurités de l'autre. Et donc, l'un ou l'autre va pouvoir développer un comportement du type possessif ou jaloux, comme on dit, ou tout simplement va manifester un besoin de réassurance permanent, pas forcément par rapport au fait que le partenaire va traîner ou avoir des interactions avec d'autres personnes, mais tout simplement, dès que tu arrives à tel endroit, est-ce que tu peux m'appeler ? Je suis stressée, je ne suis pas bien, est-ce que tu peux m'aider à prendre du recul? Encore une fois, qu'on s'entende bien, c'est important de pouvoir travailler la confiance dans la relation, et ça se fait aussi en apprenant à se reposer sur l'autre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est lorsque... Enfin, ce qui m'inquiète, c'est pas tant que ça m'inquiète moi, c'est que je m'aperçois que les personnes en souffrent, en fait, lorsqu'elles sont dans ce besoin de réassurance permanent, qu'elles ont peur en fait tout simplement que l'autre s'en aille. Et puis c'est pas juste un besoin de réassurance, parfois c'est aussi de la colère. C'est-à-dire il y a de la frustration qui peut suivre le fait que l'autre ne me rassure pas suffisamment, et ça peut mener à une vive colère. Et là pour le coup que j'observe chez des hommes et chez des femmes, c'est-à-dire même une détestation suprême. C'est-à-dire toi, tout d'un coup, qui étais l'objet de mon amour, l'objet de mon désir, tout d'un coup, je te hais parce que tu me fais du mal. Tu me fais du mal parce que tu ne me rassures pas ou parce que tu as un comportement inquiétant. Et donc, ce sont des personnes qui, parfois, vont être tentées aussi de ne plus se lier. Et en ce sens, on peut les comprendre, c'est-à-dire qu'elles vont me dire, mais en fait, lorsque je suis en couple ou dans une relation qui a de la valeur pour moi, j'ai un comportement qui est absolument déroutant pour les autres. Et puis surtout, je souffre tout le temps. Et sauf que ben, nous sommes des êtres de lien. Alors je ne dis pas, je trouve qu'il y a sans doute quelque chose de très poétique et qui a beaucoup de sagesse dans le fait d'être un ermite. Mais la plupart des êtres humains que nous sommes souhaitent être en lien avec les autres.
Nous parlons de l'action de vouloir posséder, la possessivité. De quelle façon y a-t-il un inverse à ceci, de recevoir ? Il y a des personnes qui ont peut-être besoin aussi d'être, se sentir possédées.
Plus que se sentir possédées, je dirais que pour reprendre un peu des mots qui sont volontiers employés dans le vocabulaire du développement personnel, ce sont des personnes qui vont incarner avec plus ou moins de joie le rôle du sauveur et qui vont être à l'aise pendant un temps quand même plutôt limité, je dirais, de mon expérience, un temps limité qui peut durer quelques années, mais je dirais quand même pas toute une vie, qui vont être à l'aise, voire pleinement à l'aise et comblés avec le fait que l'autre va les investir en fait de ce besoin de réassurance. Donc des personnes, comme vous disiez, quelque part qui vont apprécier que l'on soit possessif avec elle. Ça peut être aussi rassurant, dans le sens où j'ai déjà entendu des personnes au cabinet me dire « Oui, mais il est jaloux, c'est donc qu'il tient à moi. » Ou s'il n'était pas jaloux, j'en déduirais donc que son attachement n'est pas suffisant. Donc en ce sens, je pense qu'on peut entendre que les personnes sont à l'aise et ou rassurer. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, le simple fait de tenir ce genre de discours, de propos, ça traduit aussi en fait une certaine insécurité. Très franchement, on a tous des insécurités. Et on a tous du mal à dealer avec la vie, avec les autres. Et on avance tous pas à pas et on fait des erreurs. Et puis parfois on s'en veut et puis on en conclut des choses qui vont nous permettre d'avancer. Et c'est complètement OK. Ce que je trouve dommageable, c'est lorsque des personnes s'enferment en fait, dans des relations et n'imaginent pas qu'il puisse en être autrement, n'imaginent pas qu'elles puissent accéder à d'autres types de liens, que les personnes n'imaginent pas qu'elles puissent exister autrement avec l'autre.
La possessivité, donc, en fait, d'après tout ce que vous venez de dire également, j'en déduis que c'est se sentir aussi incompris. Se sentir incompris, est-ce que ça amène justement peut-être à la démarche de consulter et d'aller peut-être vous rendre visite, Nahiri Boudet ?
Alors, en effet, les personnes qui se sentent en insécurité et qui vont avoir tendance à avoir un comportement de possessivité vont avoir tendance à se sentir incompris, eux, dans le sens où ce n'est jamais suffisant. C'est-à-dire que le besoin de réassurance est permanent. Un petit peu, on parlait la dernière fois d'addiction, une goutte, c'est déjà trop et pas assez en même temps. C'est-à-dire que ça ne suffira jamais. Ce sont des personnes parfois qui ont quelque chose à l'intérieur, en fait, qui est comme abîmé et qui ne peut pas être comblé, que ce soit par la compilation de rencontres ou de rencontres sexuelles ou de rencontres affectives. Ce sont des personnes qui continuent à espérer tomber sur la bonne personne un jour. Ce sont des personnes qui se désespèrent de pouvoir établir un lien authentique avec quelqu'un, un lien où elles se sentiraient vraiment en sécurité, en confiance pour enfin avoir une relation de couple agréable. Donc oui, effectivement, ça mène les personnes à mon cabinet, c'est-à-dire à se dire, mais comment quelque part sortir de cet enfer ? Comment envisager un jour autre chose sur le plan relationnel ? Ou tout simplement, en fait, comment arrêter de souffrir ? Tout simplement, les personnes viennent souvent à mon cabinet en me disant, je ne sais pas quoi faire pour avoir moins mal, s'il vous plaît, aidez-moi.
Notre chronique se termine. Nous allons rappeler les coordonnées, peut-être, auxquelles on peut vous contacter sur différents points de rendez-vous.
Si des personnes souhaitent me contacter suite à l'écoute de cette émission ou prendre un rendez-vous pour venir à mon cabinet de GAP ou de Sisteron pour une consultation de MDR, de sexothérapie ou de thérapie de couple, je les invite donc à me contacter au 07 49 92 31 65 ou à visiter mon site internet nbsexothérapie.com.
Fréquence Mistral, ma radio, mon pays.